Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Libra Diffusio est probablement le plus gros éditeur sartois, je suppose en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Il est avec ITF et l'ARNet un acteur manifestement incontournable du livre, à cette différence que son rôle était différent à l'origine, comme on va le voir. Et puis progressivement, la défense du patrimoine sartois, notamment, s'est amplifiée et d'autres sujets, on va en parler. Bien, bah, Grégory Chacun, bonjour.
Bonjour.
Fondateur des éditions Libra Diffusio. Bah, la première question, elle est toute simple. C'est quand et comment est née cette maison d'édition?
Alors, comme souvent, hein, une idée, elle ne vient pas seule. Et j'ai l'habitude de raconter cette histoire. J'étais à Bordeaux en 98. Et il s'avère que j'étais dans une bibliothèque à Bordeaux. Et j'entends une conversation entre une lectrice, une des bibliothécaires. Et elle lui dit, je vais devoir rendre ma carte. Alors, ça m'a un peu interpellé, je dis, mais... Ouais. Et elle lui dit, mais vous savez, en fait, je ne peux plus lire. Alors, et en fait, ça a été un déclencheur, puisque je me suis dit, mais si cette femme est dans cette situation, il doit y en avoir des centaines de milliers, peut-être des millions.
Il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres. Et deux mois plus tard, je dis bien deux mois plus tard, on sortait le premier livre.
Ah, ça a été rapide, hein ?
Ça a été extrêmement rapide. Et c'est vrai que la manière dont les choses se sont déroulées, en fait, depuis un petit peu moins de 25 ans, hein, puisque 1998...
Ah, on va bientôt fêter les 25 ans ?
Pas très loin, voilà. Mmh. Ça a toujours été de faire les choses et de jamais les reporter. On a dû, dans un premier temps, convaincre, en fait, les éditeurs. Puisqu'il faut expliquer un peu à vos auditeurs comment le livre, en gros, caractère à la fois fonctionne, mais comment on produit, on reproduit les textes d'origine des auteurs.
Eh ben, voilà. Allons-y, rapidement.
Ouais. Rapidement, eh bien, il s'avère que on demande une autorisation avec, bien sûr, de façon très contractuelle, très, très carrée, auprès des éditeurs, voilà, et les éditeurs nous disent oui ou non, et quand c'est oui, il y a un certain nombre de dispositifs
mis
à respecter et mis en place. Et puis nous, on a une charte spécifique pour le formatage de nos livres, pour permettre justement des corps, une accessibilité de la lecture, un papier particulier. Bref, tout un tas de dispositifs qui permettent le plus grand confort de lecture. Voilà.
Donc, ça, si je comprends bien, ça a été fait en deux mois, certes, mais il n'empêche, il a fallu quand même travailler des caractères qui soient le plus visibles possible, trouver les bons caractères et trouver le bon format aussi. Il y a tout un travail quand même qu'il a fallu mettre étudier. Il y a eu une recherche.
Il y a eu à la fois de la recherche et beaucoup de choses qui étaient empiriques. Parce que le livre en gros caractères, on peut dire, ça n'existait quasiment pas en France. Et puis surtout, il a fallu convaincre. La première des choses, c'était de convaincre, dans un premier temps, les éditeurs pour leur dire, voilà.
Pas si évident que ça.
Et donc, on a réussi à rapidement convaincre un éditeur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, fatalement, on a constitué un catalogue. Aujourd'hui, on a Guillaume Musso, entre autres. Bon, voilà, on est très heureux.
Il est dans le catalogue.
Il est dans le catalogue. Il y a plein d'autres auteurs, mais il est assez emblématique. Et puis après, il a fallu, quand les livres sont arrivés, il a fallu tout simplement aller démarcher et dire, mais c'est bien joli, mais maintenant, il va falloir aller voir les bibliothèques. Et les bibliothèques, c'était un nouveau produit. Et elle aussi, elle se demandait, mais vous nous parlez de livres en grand caractère, vous nous parlez d'une typographie spécifique, d'un papier, mais c'est quoi? Et en fait, il a fallu envoyer, aller sur place, on a beaucoup démarché. Et il a fallu beaucoup d'années pour se faire connaître, pour constituer un catalogue et puis se faire connaître.
Et donc, alors, les livres à gros caractères, bon, ça a permis de booster l'entreprise, enfin, la maison d'édition. Mais rapidement, vous avez commencé à Ça reste, je suppose, la principale production quand même.
Tout à fait.
Mais vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y avait peut-être d'autres créneaux.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que être éditeur, on n'était pas éditeur régionaliste, on était éditeur en région.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Bien un éditeur, vous étiez bien un éditeur national.
Tout à fait, sauf qu'on était ici, basé...
Le siège ici.
Voilà, au Mans. Et donc, l'importance, pour moi, c'était de faire comprendre qu'il fallait s'enraciner et que les livres en gros caractères, eh bien, ils avaient la chance au Mans de pouvoir trouver ce type d'ouvrage et que... On ne comprenait pas à l'époque parce que la silver economy, hein, cette fameuse économie de j'allais dire du troisième âge, j'aime pas cette expression, mais des seniors, elle était mais balbutiante, mais vraiment balbutiante. Aujourd'hui, on commence à...
Oui, il y a des enregistrements, par exemple, et maintenant, aussi des livres enregistrés.
Et puis on
ça
pense...
Ça a progressé, ça, oui.
Voilà, et puis on essaye de se dire que maintenant, ça représente une telle communauté... les seniors en France.
Puis la population a augmenté.
Elle a augmenté parce qu'il y a eu des affaires du baby-boom, et il y a eu surtout le papy-boom, etc. Bon, bref. Donc, on a aujourd'hui un produit qui est à la fois reconnu par tous, parce que les bibliothécaires, les lecteurs s'y retrouvent, reconnu par les éditeurs. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'évoluer avec les lecteurs. Et en fait, on est passé d'une lecture pour handicap, donc il y a 23-25 ans, des grosses lettres, c'était des corps 16, avec pour la première fois, on a donné la possibilité à des lecteurs qui étaient en situation de handicap de se retrouver comme les autres avec une chouette couverture, une couverture attrayante,
un
sympa.
Livre comme un autre.
Un livre comme un autre. Et banaliser le problème du handicap. Et puis... Il s'est passé quelque chose à un certain moment, et ça, c'est là où c'est le côté un peu magique des choses qui nous a complètement échappé, je dis bien complètement échappé, c'est que les lecteurs bienvoyants se sont appropriés le produit.
C'est une clientèle qui était un peu imprévue.
Ah bah complètement.
Mais qui s'est dit, mais après tout, c'est confortable.
Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Et ils se sont dit, on travaille, et à la fin d'une journée...
Oui, c'est vrai, ça.
Si on a envie de finir son livre et d'aller rapidement au bout de l'histoire...
Dans son lit, par exemple.
Dans son lit, voilà. on essaie, ça serait bien. Voilà, on va essayer de lire ce type de livre dont on nous a parlé. Bon. Et ils se sont appropriés cet ouvrage. Et donc, on est passé d'une lecture... pour handicap à une lecture grand confort. Et en fait, aujourd'hui, le corps 16, qui est donc la taille d'un corps qui est dans la grande majorité de nos ouvrages, eh bien, on a suivi la population et les personnes qu'on avait il y a 25 ans, qui avaient à peu près 40-50 ans et qui avaient ce handicap, ils ont aujourd'hui pas loin de 70-75 ans. Et donc, ils ont besoin de corps et de lettres encore plus grande. Donc on a proposé une gamme de corps, de gamme de lettres.
En fonction de la vue des gens.
Absolument. Et je, pour faire simple, il y a une maladie qui s'appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas du tout médecin et je me garderai bien de ça. Il ne faut absolument pas parler médecine. En revanche, ce qui est très important, c'est de dire, et d'ailleurs il y a beaucoup d'ophtalmos qui reconnaissent les bienfaits de ce, en tous les cas, de cet outil. C'est pas une boîte magique, c'est un outil. C'est vous avez une vue qui a vraiment diminué, ou vous avez une DMLA sur un de vos deux yeux. Eh bien, même si la lecture sera plus difficile, vous avez aujourd'hui la possibilité, dans une très grande majorité. Il y a malheureusement des cas où le livre en gros caractères n'est plus la solution, malheureusement, mais ça, on ne peut rien faire autrement. Mais je veux pas donner de faux espoirs, je ne suis pas de la paire de perlimpinpin, ce n'est pas du tout dans l'esprit de la maison, mais ce n'est pas un gadget, le livre en gros caractères. Il y a vraiment des gens qui ont un vrai souci de vue et qui peuvent retrouver, et on a reçu sur ces 25 ans un nombre incalculable de lettres très émouvantes hein, pour certaines, parce qu'ils avaient pu remettre, toucher, avoir cette sensation du papier, tourner les pages. Alors ça ne veut pas dire qu'ils lisent facilement, ils ont beaucoup une loupe, etc.
Oui, mais, quand même.
Quand même, malheureusement. Mais en tous les cas, entre un petit caractère...
C'est plus confortable, tout
ça reste plus confortable.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Alors, il y a une question que je pense les auditeurs peuvent se poser, et j'avoue humblement que je me pose depuis le début aussi. D'où ça vient Libra Diffusio ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi avoir choisi ce nom-là ?
Alors, je vais vous expliquer.
Voilà un petit mystère qu'on va éclaircir.
Ah oui, ben vous allez le savoir, tout simplement. Il s'avère que... il fallait bien sûr donner un nom à cette structure. Bon, alors on n'était pas à l'époque, ça l'était déjà bien sûr, toute la propriété intellectuelle, etc. Mais on n'était pas comme aujourd'hui où le choix d'une marque, d'un nom de marque est extrêmement importante, beaucoup plus importante que ça ne l'était par le passé. Aujourd'hui, il vous faut des noms relativement courts, qui soient dynamiques. Bon, bref.
Il faut que ça tilte.
Voilà,
comme on dit.
Et donc nous, les seniors, et puis c'était pas dans ma nature non plus, j'étais pas du tout rompu à ce type d'exercice. Et en fait, j'ai pris un dictionnaire et je regarde, je vois livre et je vois à côté Libra. Alors je dis, bah, ça c'est une bonne idée, Libra. Et je dis, mais il faut qu'on le diffuse. Et hop, je regarde, je vois... diffusion, diffusio et latin, etc.
En latin, voilà.
Et j'ai dit, bon ben voilà, ça va être Libra, aussi simple, diffusio. Diffusio. C'est improbable comme nom.
Oui,
et
voilà.
C'est pas
un petit peu ça. Et ça surprend un petit peu.
Bien
on
sûr.
On se dit, tiens, pourquoi ? Et bon, c'est du latin, quoi, finalement. Dans
mais
cas.
C'était pas voulu.
Non, c'était pas voulu.
C'était pas voulu.
Voilà, en feuilletant un livre, c'est...
En feuillant le dictionnaire.
Un peu comme la rencontre de cette dame dans une bibliothèque qui fait « Tiens, je vais être éditeur. »
C'est ça,
puis,
ça
s'est passé
là,
comme après, ça. Le nom, c'est un peu pareil.
C'est improbable,
et
mais
c'est... la beauté de la chose, de tout ça. Hein,
c'est à la fois très, très léger, très émouvant.
Voilà.
Et en même temps...
C'est émouvant.
Improbable, je crois, aujourd'hui.
De refaire ça.
Oui.
Aujourd'hui, on dirait Libra. D'ailleurs, est-ce que les gens disent pas finalement Libra ? Moi, j'avoue, je le dis des fois.
Ça s'entend.
Libra vient de publier ça.
Oui, oui, on l'entend.
On
l'entend, mais on est quand même à la fois quand on.
Vous êtes attaché à.
Oui, et quand on décroche, eh bien, les gens disent, les collaborateurs disent Libra Diffusio, quoi.
Ouais, quand même. Alors. Un petit peu juste quand même présenter le personnage, parce que bon, on a présenté la maison, comment elle est née, sur quels critères, mais qui êtes-vous finalement, Grégory Chacun, d'abord ? Et puis, je mettrai dans la même question le fait que si vous n'aviez pas eu cette idée dans une bibliothèque à Bordeaux, est-ce que vous auriez fait le métier d'éditeur ? Qu'est-ce que vous auriez fait comme métier, en fait, s'il n'y avait pas eu ce hasard heureux ?
On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? J'aurais pu faire à la fois, je pense, beaucoup de choses.
Vous aviez quelque chose dans l'esprit ?
Non,
vous alliez vers quelque chose ?
Non, mais j'aimais beaucoup le tennis, bon, j'ai pas mal joué. Voilà.
Ah, il y avait une petite idée derrière ça aussi ?
Ouais, et puis j'ai des graves problèmes au niveau de mes cervicales, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Et donc, le tennis, ça a aussi beaucoup structuré ma vie. Hein. Faut quand même le.
Ah oui.
Oui, ça a beaucoup structuré.
Ça a été important dans votre
vie. Ça a été important. Je jouais, j'avais du plaisir, je m'entraînais beaucoup.
Il y avait une ambition.
En tous les cas, à un certain moment, non pas que la question se soit posée aux yeux des recruteurs, etc. Enfin, bon, j'avais des bourses et tout, j'allais en région. Bon, voilà. Je regrette absolument pas de ne pas
l'avoir fait.
Ça, c'est sûr. Et voilà, en tous les cas, ma jeunesse, elle a été quand même très très fortement.
Elle était basée sur le tennis.
Oui, et donc le tennis m'a apporté, puis avec ma famille bien sûr, mais la rigueur. Je veux dire par là, la notion de compétition.
On n'a pas le droit à l'erreur.
Non. Après, la vie d'un éditeur, c'est une vie qui est quand même fait de beaucoup d'abnégation. Il faut avoir dans une espèce de créativité quand même permanente. Il y a de la réflexion. Vous voyez, c'est des métiers...
Je dirais même qu'il faut quasiment apprendre aussi à perdre. Par exemple, il y a un livre qui ne va pas forcément très bien fonctionner. On ne s'y attendait pas. C'est comme ça, ça fait partie de la règle du jeu.
Et il faut en avoir le moins possible.
Bah, évidemment, ça j'imagine bien. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un éditeur qui n'a pas eu, d'échecs. Enfin, d'échecs, pas forcément des échecs, mais disons...
Des méventes,
on n'a pas fait la vente qu'on aurait imaginée.
Des méventes, ouais. Oui.
Ça, c'est des choses. Pour finir sur la vie personnelle, vous êtes Sartois.
Ah oui, oui.
Sartois pur jus.
Ah, pur jus.
Né dans la Sarthe, d'accord.
Né au Mans, la famille est sartoise.
C'est juste pour situer un petit peu le personnage. On va faire un petit jeu, le jeu des combien.
Ah.
Je me suis amusé à me préparer ce petit truc-là. Enfin, c'est pas très compliqué à faire. Hein.
Allez.
En fait, c'est très simple. Combien de livres publiés à l'heure où on se parle?
À peu près 1500.
1500 titres. Mmh. C'est pas mal déjà, ça. Combien d'exemplaires globalement
Je vais essayer de vous donner une réponse. Je peux pas vous donner le chiffre exact. Mais les livres en gros caractères, que l'on trouve dans les librairies, on les trouve aussi beaucoup dans les bibliothèques. Et donc, quand on est dans une bibliothèque, le livre, il est souvent acheté en un exemplaire. Il peut l'être des fois par deux, à de très très rares exceptions, par trois. Et donc, il faut vous donner que pour un titre, le nombre de lecteurs dans une bibliothèque multiplié par le nombre de bibliothèques et multiplié par le nombre d'ouvrages où se situe le titre, moi, je pense qu'on peut parler de plusieurs millions de lecteurs.
Ah, c'est sympa quand même. Hein. Et combien d'auteurs?
Bon, bien sûr, il y a les auteurs sartois. On a un auteur récurrent, Denis Esqueras.
Ah, lui, c'est un pilier. Dans
c'est un auteur un peu iconique. Ouais. On a Serge Bertin, que tout le monde connaît.
Ah, Serge Bertin, pareil, qui ne le connaît pas.
On a Bruno Palmé, du Maine Livre.
Ouais,
Et puis qui va publier des choses également avec nous. Il y a un certain nombre d'auteurs.
Il y a une petite équipe.
Il y a une petite... Voilà. Ouais, et puis après, il ne faut pas non plus... que le groupe soit refermé. Donc, il y a toujours, les hasards de la vie. Hein,
des satellites.
Et qui viennent comme ça, et puis qui font que le cercle s'agrandit. Et au final, vous avez vraiment des gens sur lesquels...
Une famille. Une famille au complet.
C'est presque ça.
Et mon dernier combien de livres vous sortez à peu près chaque année?
Alors,
publié chaque année.
À peu près. Alors ça dépend, hein. Mais
là aussi, c'est pas des chiffres.
C'est voilà. Mais
c'est variable d'une année à l'autre, j'imagine.
Oui, mais disons une bonne centaine. Et c'est vrai que le livre, c'est aussi une forme d'engagement. Et c'est pour faire le lien avec cette BD qui était notre première BD.
Oui, alors parlons-en, allons-y, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même un de vos derniers bébés, et manifestement, c'est nouveau, d'abord, et puis, c'est pas forcément fini.
Alors écoutez, ce qui se passe, c'est que il y a 2 ans, Hugues Bourgeois, l'oncologue sartois, qui, je dirais, accompagne depuis de très, très, très nombreuses années des personnes en fin de vie.
En fin de vie.
Voilà, sur le marché. Je ne le connais pas. Vraiment, je ne le connais pas. On échange. Il me dit, oui, moi, j'aimerais bien faire... Bon, puis on ne se voit pas pendant 6 mois. Puis on est amené à se revoir comme ça. Puis un jour, il me dit, ouais, non, c'est, Ça serait bien, Greg, qu'on arrive à
ça le titillait.
Ouais. Et puis voilà, et puis on trouve l'illustratrice F. Claire, qui n'a jamais illustré de livre, jamais. Et on lui dit, il faut faire une BD. Le titre s'appelle « Je veux mourir chez moi ». C'est un titre qui est très, 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 très explicite.
C'est très clair.
Mais je tiens à préciser aux auditeurs, parce que ce n'était pas du tout l'aspect que je souhaitais, c'est-à-dire... c'est de se focaliser sur la fin de vie à domicile. C'est-à-dire de montrer que c'est un droit le plus absolu. C'est le droit, Bertrand...
à mourir dans la dignité, comment dire.
Dans la dignité, mais attention, chez soi. Et en fait, vous avez...
Mais c'est quand même mourir dans la dignité de mourir chez soi.
C'est d'autant plus important que...
Bien évidemment.
80% sont les chiffres qui sont évoqués souvent par le docteur Hugues Bourgeois. 80% des Français terminent leur vie à l'hôpital alors qu'ils aimeraient la terminer à 80% chez eux. Et c'est ça qu'on voulait vraiment faire ressortir, c'est de dire aux gens, cette BD-là, c'est un médium qui va vous permettre d'échanger autour de vous, au sein de la famille.
De trouver des pistes pour s'organiser, pour
réfléchir,
pour
anticiper. Et sachez que ça existe.
On va finir là-dessus parce que malheureusement, il va falloir qu'on se sépare. Il y a aussi une autre nouveauté qui n'existait pas. Ce sont des guides.
Ah oui, alors ça, c'est une très, très, très belle aventure.
Ouais.
Les guides, pourquoi ? Alors, j'explique que... En 2008, il y a cette fameuse crise, Lehman Brothers qui s'effondre. On a un peu l'impression que le monde s'effondre. Quand on voit que tout ce système s'effondre, on se dit, mais les gens ne vont plus pouvoir voyager, c'est pas possible. Enfin, comment ils vont faire? Et là, j'ai une idée en disant, mais on a une richesse en 2008, c'est prenons la Sarthe. Mais qui la connaît vraiment, la Sarthe? Et qui va découvrir ces villes et ces villages? Et donc, je demande à Denis Esquera, comme je disais, l'auteur un peu iconique de La Maison. Et je lui dis, plutôt que de faire des photos, tu vas aquareller. On fait une première série de villages, qui s'appelait donc « À la découverte des villages ». Et on a la pandémie. Et durant la pandémie, je me dis, mais bis repetita, là, les gens vont redécouvrir leur territoire. C'est pas possible. Bon. Et donc, on a à la fois enrichi la version « À la découverte Sarthe-Mayenne ». On l'a enrichi des villes. On y a ajouté... la notion de label, les petites cités de caractère ou les villes qui étaient homologables au titre de petites cités de caractère. Donc ça s'est enrichi. Et puis après, on a eu le département de l'Orne qui a dit c'est drôlement bien.
Ça nous intéresse.
On a fait l'Orne. Et là, Denis, au moment où on se parle, est dans l'Allier. On va faire également les Ardennes. Et l'idée, c'est ces guides. Vous avez les guides verts. Et j'espère qu'un jour...
Bah oui, les guides verts.
Voilà, les
c'est
guides
Michelin
verts, qui fait ça et qui fait ça très bien. Ils font ça formidablement bien. J'aimerais un jour qu'on puisse dire, je voudrais le guide jaune.
Juste une petite chose. Est-ce qu'on peut révéler la sortie du prochain bouquin? Est-ce qu'il y a un prochain bouquin là, qui va sortir incessamment dans les
Alors,
semaines ou dans les
oui,
mois qui suivent là?
Il va y avoir... Alors, il va y avoir normalement au mois de mars un livre jeunesse BD.
Ah, on revient à la BD.
Un livre BD jeunesse. Avec une très très forte thématique qui est celui de l'handicap et de l'inclusion. Voilà. Et donc, on est toujours sur ces BD sociétales.
C'est ce que j'allais dire.
Oui.
Ben voilà, c'est sympa. Merci Grégory.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis nous, sinon, on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission. Alors comme je ne sais jamais exactement qui sera le prochain invité, vous le découvrirez dans 15 jours. Voilà, merci à tous. Au revoir.
Au revoir.